L'émission Mangeur sur Boulevard 102.1 à la météo, c'est une superbe journée encore une fois. Moins 1, il y aura peut-être un petit peu de neige. Moins 1 demain ensoleillé, 1 degré ensoleillé jeudi, moins 3 ensoleillé pour vendredi. Superbe semaine d'hiver. Mathias, avant qu'on parle avec M. Routier, commissaire au lobbyiste, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité? À part le troisième lien, parce qu'on va en parler après avec Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, et avec Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la CAQ.
La présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a annoncé aujourd'hui qu'ils envisageaient non seulement poursuivre certains dirigeants de la Société d'assurance automobile du Québec, mais également qu'ils pourraient avoir des recours juridiques possibles contre des firmes qui ont été impliquées dans le dossier SAC-CLIC. Donc, c'est nouveau d'aujourd'hui. On va suivre le dossier à savoir quels seront vraiment les poursuites intentées, quels seront les recours juridiques au cours des prochaines semaines. Deux hommes suspectés d'avoir opéré un laboratoire spécialisé dans la production de faux documents ont été arrêtés par la Sûreté du Québec aujourd'hui. Il y a certains responsables de la SQ qui ont commenté en disant qu'ils n'avaient jamais vu des documents de qualité aussi impeccable de ces faux documents-là. Ces deux hommes-là vont attendre d'être jugés justement pour notamment les accusations de production de faux et de possession de renseignements identificateur. Et je termine avec les statistiques sur l'inflation qui sont sorties aujourd'hui. L'inflation pour le mois de janvier 2026 par rapport à 2025 est de 2,3% au Canada. On parle surtout d'une diminution de 16,7% du prix d'essence qui explique ce 2,3%-là parce que du côté de l'alimentation, on parle de 7,3%, là, ce qui fait plutôt mal. Côté sport, on a une nouvelle médaille d'or juste avant l'émission du midi.
Oui.
On parle du patinage de vitesse longue piste en poursuite. C'est Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Wademan qui décrochent l'or à Milan.
Félicitations à Valérie Maltais qui va chercher une deuxième médaille dans ces Jeux olympiques, une première médaille d'or. Il est exactement midi 41 et on a la chance d'avoir M. Jean-François Routier, commissaire au lobbyiste avec nous en studio. M. Routier, merci beaucoup de votre présence à l'émission L'Enjasse.
Merci de l'invitation.
Monsieur Routier, comment vous avez trouvé le rapport de la commission Galant par rapport à vos tâches? Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce qu'on est allé assez loin? Comment vous évaluez le tout?
Bien, écoutez, quand je me suis présenté à la commission Galant pour aller faire état de nos constats, mais surtout des besoins qu'on avait d'améliorer la loi, j'avais des attentes, oui, et je pensais que le commissaire m'avait bien entendu, avait bien vu les enjeux qu'on soulevait. Donc, très heureux, évidemment, de la recommandation numéro 25, je la connais, qui recommande une refonte complète de notre loi parce que je pense qu'on est rendu là. Évidemment, il y a plein d'autres recommandations à mettre en œuvre, mais celle-là me tient particulièrement à cœur.
L'après-Charbonneau, là, quand il y a eu la commission Charbonneau, ça a placé un peu un contexte favorable, justement, à ce qu'on redonne un tour de roue en matière d'éthique dans plein de secteurs, mais notamment en matière de lobbyisme. Est-ce que vous êtes confiant que l'après-Galant va vous permettre enfin là, de mettre en place ce qu'il faut pour ce que vous réclamez, en fait, depuis plusieurs années? Là.
Oui, puis je dirais, c'est avec un peu de tristesse, par contre, parce que dans le sens où on passe toujours d'un scandale à des réactions ou d'une situation d'urgence à une réaction d'urgence, alors que pour moi, l'intégrité publique, on aurait dû apprendre de Charbonneau, on n'aurait pas dû laisser nos lois dépérir, on aurait dû renforcer notre gouvernance. Et je parle, oui, du lobbyisme, parce que c'est mon territoire à moi, mais je pense que l'intégrité publique, c'est d'abord et avant tout au bénéfice du citoyen. Donc, il faut penser en fonction de ça. Maintenant, oui, j'espère que le rapport Galant va donner des résultats clairs et précis.
Quelle est votre demande précise envers, justement, les gouvernements, parce qu'on va tomber en élection prochainement, pour ce qui est de l'amélioration des lois entourant le lobbyisme?
Bien, essentiellement, il faut la revoir, cette loi-là. Elle a été adoptée en 2002, à la suite d'un scandale, en passant. Mm-hmm. Et donc, elle a été conçue en fonction de ça, d'une réponse à un scandale. Maintenant, ça fait quand même 23 ans qu'elle existe. On a appris à travers le temps, on a surtout vu les lacunes de cette loi-là. Vous en avez parlé tout à l'heure en introduction, la fameuse partie importante où, qui fait en sorte qu'il y a certains lobbyistes d'entreprises qui n'ont rien à déclarer tant et aussi longtemps qu'ils ne font pas des activités pour une partie importante. Ça veut dire qu'on peut aller s'asseoir dans le cabinet d'un ministre ou dans le cabinet du premier ministre pour discuter d'un dossier, pour influencer une décision. Mais si on le fait une seule fois, on n'aurait pas à s'inscrire, on n'aurait pas à être transparent envers nos citoyens. Pour moi, ça ne fonctionne pas.
Puis là, on parle d'entreprises privées. Donc là, dans la tête des citoyens, là, on pense déjà là, qu'ils sont là pour faire de l'argent puis influencer. Mais dans les faits, vous demandez aussi que la transparence soit élargie un peu pour tout le monde, pas juste pour les entreprises, mais aussi les OBNL, parce que c'est pas juste les entreprises, dans le fond, qui devraient théoriquement déclarer ce qu'elles font. Pour le bénéfice des citoyens, pour avoir un portrait complet, il faudrait vraiment qu'on élargisse aussi aux OBNL?
Bien, absolument. Dans les faits, pas tous les OBNL. Là. On ne parle pas des organismes communautaires, on ne parle pas des gens, des organisations qui sont en soutien ou qui sont le bras droit ou le bras gauche du ministère de la Santé, par exemple. On parle d'OBNL qui font des activités de lobbyisme. Et moi, ce qui me dérange, c'est que bien, partout au Canada, j'inclus l'île du Prince-Édouard, le Yukon, j'ai rien contre eux, mais ils ont tous des régimes qui encadrent les OBNL. Et nous, au Québec, on a droit à moins de transparence parce qu'on n'a pas cette exigence-là, parce qu'à un moment donné, on a décidé de les exclure un peu comme si c'était une binaire. Ce n'est pas le cas et je pense qu'il y a lieu de réfléchir à ça.
Je reviens dans le temps. On est avec Jean-François Routier, commissaire au lobbyisme. Pour rappel, je reviens dans le temps. Je reviens au temps de la COVID, une période qu'on aime oublier, mais il faut quand même toujours y penser. Et il y a la fameuse firme McKinsey qui, justement, a discuté avec le gouvernement. Le gouvernement lui a fait confiance. On a eu des contrats onéreux avec eux jusqu'à 6,5 millions. Est-ce que ça avait transcendé, justement, les règles du lobbyiste, la façon que ça s'est fait?
Bien, à l'époque, là, vous faites référence probablement au fait qu'on a fermé une enquête qu'on avait démarrée en 2023, il y a quelques jours. Et pour la conclusion, la même conclusion qu'on arrive dans 50 % des enquêtes qu'on fait concernant des entreprises, c'est-à-dire on ne sera pas capable de démontrer qu'il y avait une partie importante des affaires qui était en lien avec du lobbyisme. Donc, c'est un des enjeux qu'il y avait dans ce dossier-là. Maintenant, le problème n'est pas que des entreprises rencontrent des décideurs. Le problème, c'est que dans certains cas, ça devient pertinent tout de suite. Quand on est au cabinet du premier ministre ou d'un ministre, pour moi, ça devient pertinent tout de suite pour le citoyen. Donc, ces échappatoires-là ne devraient pas avoir lieu.
Vous manquez donc un peu de moyens législatifs pour aller aussi loin que vous aimeriez. Est-ce que vous manquez aussi de moyens, financiers, de ressources? Parce que là, si vous devez faire des enquêtes puis qu'on vous donne des moyens supplémentaires avec la loi, bien, ça va vous demander aussi plus de ressources pour appliquer la loi?
Probablement que, à certains égards, oui, ça se peut. Sauf que si on change la loi, on va changer la loi pour vrai. Ça prend des sanctions administratives, ça prend des sanctions pécuniaires. Alors, on va arrêter de faire des enquêtes pour des gens qui ont déposé des déclarations en retard. On va simplement leur envoyer une amende de 100, 200, 300 $ pour que ça se règle de cette façon-là. Puis en plus, on va pouvoir dire qu'on les a sanctionnés. Et ça va avoir un impact. Et on va renverser la responsabilité sur les entreprises aussi, plutôt que sur les individus. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Est-ce que ça veut dire que demain matin, on va avoir plus d'enquêtes à faire? Peut-être même pas. Mais on va avoir des enquêtes sur lesquelles on va avoir un véritable contrôle, par contre.
Votre réponse me fait penser aussi à une autre préoccupation, parce qu'avec la mise en place des recommandations du rapport Galland, comme ça avait été le cas avec les recommandations de la commission Charbonneau, ça peut ajouter une certaine lourdeur administrative aussi, autant pour les entreprises qui vont faire de l'influence, autant pour vous de votre côté avec des enquêtes, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel, bien, un, vous êtes sensible? Est-ce que vous pensez que ça risque de rajouter des délais, de la lourdeur, faire baisser l'efficacité de nos processus?
Je ne le crois pas parce qu'on travaille dans l'autre sens depuis plusieurs années. Quand on a commencé à construire Carrefour Lobby Québec, qui est le registre des lobbyistes, on l'a conçu en fonction de la réforme qui n'est pas encore déposée. Mais on l'a conçu en fonction de
ça.
Vous avez
regardé ça à long terme, là.
Oui, parce qu'on voulait complètement renverser la façon de faire les choses. Donc, aujourd'hui, bien, publier un mandat au registre des lobbyistes, un, ça ne coûte rien. Deux, ça prend en bas de 5 minutes. Alors, il n'y a pas de raison administrative, il n'y a pas de fardeau. Et tout ce qu'on va être capable d'enlever comme fardeau, on va le faire. Alors, je pense que ce n'est pas un argument à ce jour, surtout pas un argument pour s'empêcher d'avancer.
En terminant, M. Routier, est-ce que dans le cas, puis je reviens à la COVID, dans le cas de McKinsey, il y a quand même des actions qui sont troublantes dans ce dossier-là? Je fais juste regarder, McKinsey avait justement des liens avec la compagnie Pfizer. On a tutoyé le plus haut fonctionnaire de l'État, Yves Ouellette, dans des courriels. Alors, est-ce que c'est des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, que vous vous dites, oups, on a contourné certaines règles?
Bien, encore une fois, je dois me fier à ce que mes enquêteurs m'ont dit. C'est sûr qu'il y a eu des communications qui ont été faites. Il y a des gens qui ont été rencontrés en haut lieu. Est-ce qu'il y a eu des infractions qui ont été commises? Je ne suis pas capable de le démontrer aujourd'hui. Par contre, à ma connaissance, McKinsey n'est pas inscrite à aucun registre des lobbyistes au Canada. Donc, faut tirer les conclusions qu'on peut.
Monsieur Routier, je vous remercie infiniment. Jean-François Routier, commissaire au lobbyiste. Je remercie infiniment d'être passé à l'émission On en jase et au plaisir de se reparler.
Merci.
Merci beaucoup.
On en jase jusqu'à 14 h.